des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique Les actualités de l'histoire, Dave Noël revient sur les mésaventures de la Grande Hermine, ou plutôt de la réplique de ce navire amiral de Jacques Cartier, installé il y a 50 ans au parc Cartier-Brébeuf. Elle n'y est plus, évidemment. Sitôt arrivé à Québec, le vaisseau sombra dans les eaux. Dave vante ensuite la mise en ligne des superbes photos historiques du musée McCord et souligne le début de l'année René Lévesque à l'occasion du centenaire de la naissance du grand premier ministre. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important, choisissez les mois.
Bonjour Patrick Belrose.
Bonjour Antoine.
Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme ça, Patrick, il y a un Templier qui se présente au Parti libéral du Québec.
Oui, j'aime bien ta façon de le présenter. C'est le candidat dans le château fort de l'Acadie, donc celui qui veut remplacer Christine Saint-Pierre, monsieur André A. Morin, qui, dans le fond, a été président du chapitre canadien de l'Ordre de Malte. Et je ne sais pas si tu connaissais ça, l'Ordre de Malte, avant l'article de ce matin.
Oui, ça me disait quelque chose, effectivement, puis... Parce que j'ai un oncle, moi, qui est décédé maintenant, qui venait de Malte et qui m'avait déjà parlé de ces choses. Mais je sais que ça a rapport aux croisades.
Bien, exact. C'est une histoire assez particulière. Pour mettre les auditeurs un peu dans le bain, là, je te dirais qu'on est un petit peu dans le domaine du Da Vinci Code, un petit quelque chose de l'Opus Dei, là, sans la mortification de la chair.
Évidemment. Oui.
Donc, l'Ordre de Malte, écoute...
C'est catholique solide.
C'est catholique conservateur à fond. Et c'est une communauté religieuse qui a été créée, comme tu disais, pendant les croisades. Écoute, en 1048 à Jérusalem. Donc, ça va avoir 1000 ans bientôt.
Fascinant.
Et ça a été créé pour soigner les croisés. En fait, c'est un ordre hospitalier. On voulait se soigner les pèlerins. Et l'ordre a continué à exister tout ce temps-là. Par après, c'est devenu un pays établi à Rhodes. Mm-hmm. Et ensuite, ils ont été chassés de Rhodes. Ils sont établis à Malte. Et là, aux alentours de 1800, c'est Napoléon qui les a chassés aux dernières nouvelles, dans la nouvelle de mémoire. Et donc, ils ont été chassés. Maintenant, c'est considéré comme un État sans pays parce qu'ils n'ont plus de territoire et de population qui est installée. Mais ça continue à exister comme un ordre religieux reconnu par le pape, par une bulle papale. Et ils ont, écoute, leurs ambassadeurs dans 120 pays.
Impressionnant.
Ça inclut la Russie, ça inclut le Canada. Ils sont reconnus comme ambassadeurs. Ils ont leur propre passeport, pas pour tous les membres, mais pour environ 500 membres. Et ils ont même un siège... réservé, un statut d'observateur réservé aux Nations Unies. Mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier, quelque chose qu'on penserait que ça n'existe plus, ce type de société-là, je dirais pas secrète, mais mystique quasiment.
Non, c'est pas les francs-maçons, là. Oui.
Non, c'est pas les francs-maçons exactement, tout est ouvert, mais il y a quelque chose de mystique. Tu faisais référence un petit peu à tout le décorum qui entoure cet ordre-là. On a publié une photo ce matin du candidat libéral, donc M. Morin, qui participait à une cérémonie d'investiture des nouveaux membres. Et écoute, ils sont dans la cathédrale Notre-Dame à Ottawa et tout le monde est habillé comme des religions, on dirait même quasiment
oui.
comme des prêtres.
On a l'impression que c'est donc, un prêtre, Monsieur André A. Morin, à ce moment-là.
Exactement, il porte la toge similaire à celle d'un prêtre, mais c'est pas le cas. Et donc, il procède à l'investiture d'une dame qu'on appelle, donc il y a les chevaliers et les dames, je me souviens bien, qui mm-hmm. sont investis. Donc, très, très protocolaire. Et on a voulu parler à M. Morin parce que on se souvient que Dominique Anglade, il y a deux semaines, avait dit il faut absolument pas que des partis présentent des candidats qui seraient contre le droit à l'avortement. Et le chapitre canadien de l'Ordre de Malte s'est prononcé en 2020, donc 3 ans après que M. Morin ait quitté comme président, mais il est toujours membre à ce jour. S'est prononcé contre l'avortement, contre la peine de mort et contre l'euthanasie. Donc, on a voulu vérifier avec M. Morin quelles sont ses convictions à ce sujet-là.
Ben oui.
Et M. Morin...
Mais il a renié les trois. C'est-à-dire, il n'appuie pas les positions de son propre ordre pour ces trois cas-là.
Écoute, c'est particulier parce que, justement, il a présidé, je le rappelle, l'ordre. Donc, s'il avait été simple membre, on me disait, écoutez, oui, tous les catholiques sont contre l'avortement ou en fait font partie d'un organisme, d'une organisation qui est contre l'avortement, contre l'euthanasie aussi. Mais je veux dire, il a présidé quand même cet ordre-là. Mais M. Morin nous a rassurés. Il a dit, non, écoutez, il a dit clairement, je suis pro-choix. On peut être catholique et pro-choix. Mmh. Quant à moi, les deux valeurs ne sont pas incompatibles. Donc après ça, c'est...
Mais c'est drôle, Patrick, ça me fait penser à un membre de Greenpeace qui serait pour, je sais pas moi, que tout le monde ait un SUV.
je l'ai challengé sur la question. Je lui ai dit, ben, écoutez, c'est particulier. Vous avez, moi, je peux te dire, Antoine, que si aujourd'hui j'étais membre d'un groupe qui se déclare éventuellement contre l'avortement, je
oui.
disais, ben, écoutez, j'ai un malaise et je vais quitter le groupe. Monsieur Morin dit, écoutez, moi, je peux faire les deux. J'ai des okay. convictions catholiques profondes qui font que j'ai envie de faire partie de cette organisation-là. Mais en même temps, clairement, résolument, je suis pro-choix.
C'est particulier, lui, vraiment, parce que c'est pas n'importe quoi. Moi, je viens d'évoquer Greenpeace, mais tu sais, Greenpeace, pas une religion. Alors que là, c'est vraiment une religion, là. C'est un sous-groupe religieux. Donc, je comprends pas cette position.
Même à l'époque où il présidait le chapitre canadien,
oui.
Il y avait le cardinal qui représente l'ordre, qui a participé à une marche contre l'avortement à ce moment-là. Il y avait aussi toute une controverse sur son ordre, l'ordre de Malte, qui avait, en fait, le numéro 3 de l'organisation se fait taper sur les doigts pour avoir distribué des préservatifs aux prostituées en Birmanie en disant, mais écoutez, ça va vous éviter d'attraper des MTS, comme on disait à mon époque, des TSS aujourd'hui, et de tomber enceinte. Donc, on voit qu'il y a des valeurs très, très conservatrices au sein de l'ordre. Mais M. Morin m'expliquait que, en fait, pour lui, son implication est vraiment plus du point de vue humanitaire. C'est un ordre hospitalier à la base, comme je disais, qui a continué à faire des missions humanitaires. C'est un peu comme la Croix-Rouge, si on veut. Donc, un peu partout dans le monde, des hôpitaux, des dispensaires, on tente d'aider les gens qui sont les plus vulnérables.
Mm-hmm.
Et Maître Morin lui-même a participé à des missions comme ça au Québec avec l'accueil Bonneau, à Toronto, d'autres missions pour aider les sans-abri. À Vancouver, il a aidé à donner des lunettes pour les gens qui ne pouvaient pas se payer. À Lourdes, en France, lors d'un pèlerinage, il a travaillé comme préposé aux bénéficiaires. Donc, il y a quand même tout ça qui est à son crédit. De dire, ben, écoutez, il fait des missions humanitaires, il y a de les gens. Et c'est la raison pour laquelle il s'implique au sein de cet ordre-là. Entre toi et moi, j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose de similaire sans s'impliquer dans un ordre catholique.
Oui.
Aussi conservateur,
oui, bon point.
Mais c'est son choix. Puis ça, je le respecte tout à fait.
Absolument, absolument. Il y a aussi, évidemment, que c'est un ancien procureur fédéral en chef du service des poursuites pénales du Canada pour la région de Québec. Et il a répondu à la presse.
Oui.
C'est ça. Il a répondu à la presse quand la presse lui a posé une question sur le fameux procès secret qui a eu lieu à la Cour du Québec, mais qui n'a pas laissé de trace, tu sais, ce procès étrange-là.
Oui, on ne sait toujours pas qui était accusé de quoi.
Et lui a dit « j'ai jamais été au courant de tout ça ». Ce qui est drôle, c'est qu'il était procureur fédéral en chef. Donc, un candidat à suivre, hein?
Un candidat à suivre. Écoute, moi, pour te dire, je lui ai parlé, évidemment, pour le texte. Et un monsieur très sympathique qui m'a répondu très ouvertement sur ses positions. Donc, c'est à souligner, c'est apprécié de sa part, mais c'est quelqu'un d'intéressant à découvrir au Parlement. Disons qu'un libéral dans l'Acadie, les chances sont bonnes quand même qu'on le joue au Parlement l'automne prochain.
Oui. Deuxième sujet maintenant, évidemment, on se réjouit de la fin des mesures sanitaires, mais ça se traduit par une baisse de revenus pour les infirmières.
Une baisse de revenus importante, Antoine. Écoute, je parlais avec des syndicats, avec ta collègue aussi, Diane Tremblay, on a fait le tour de quelques syndicats, et on m'expliquait que pour une infirmière, là, c'est le cas d'une infirmière à Rosemont, Maisonneuve-Rosemont, ça peut représenter 1 800 $ de moins par mois. Ce qui est quand même assez, 1 800. Assez important sur un chèque de paye, ça paraît. Il y a deux exemples, puis écoute, même on peut cumuler les primes, là, on a pris un peu de figure, mais il pourrait en avoir plus. Deux primes qu'on a pris avec le syndicat de la FIC pour calculer ce montant-là. Il y a la prime escalier pour inciter les gens à travailler à temps plein, une certaine prime d'assiduité, si on veut. Et il y a aussi le temps double plutôt que du temps et demi pour le temps supplémentaire. Donc, on calculait, on disait, si une personne travaille à temps supplémentaire pendant cette période-là, deux jours semaine, ben, la prime de 1 000 $ plus environ 800 $ pour le temps supplémentaire, ça ferait 1 800. Et puis là-dedans, écoute, on peut rajouter une prime 4 ou 8 % pour la prime COVID. Il y a différents avantages aussi qui étaient payés. Par exemple, le repas, si on faisait le temps supplémentaire, il y avait le taxi aussi pour revenir après la fin de la journée. Et même l'accumulation d'une demi-journée de vacances par quart de travail additionnel, ça fait tout un incitatif à travailler. Et là, ce que les différents syndicats nous disaient, ben, écoutez, ça fait 2 ans que les employés travaillent, sont au front en raison de la pandémie, sont fatigués, sont à bout. Les gens restaient parce que il y avait ces incitatifs-là. On craint qu'en les enlevant, ben, tout d'un coup, le monde se dise, OK, moi, le temps supplémentaire, c'est fini, je me repose, aïe, je prends des vacances, je suis calme malade, comme on dit en bon français.
Et attention. Ça arrive. Attention, tu parles à mon oncle sans, hein?
Exact. Et ça risque de mettre de plus en plus.
Il y a une expression que j'aime beaucoup au lieu de calme malade, c'est se faire porter pâle. Et que c'est joli.
Oh, oui. C'est joli quand même.
Oui, oui.
C'est joli.
Alors, on craint l'exode, hein, c'est ça?
Ça fait très québécois, tandis que porter pâle, c'est un peu,
oui,
un peu franco-français.
Ah, ben, écoute.
Écoute, mais donc, on craint que ça mette de plus en plus de pression sur les épaules de ceux et celles qui restent au front. Surtout que les vacances s'en viennent, les vacances estivales s'en viennent. Souvent, les gens dans cet état de la santé n'ont pas eu le temps, n'ont pas pu prendre des vacances comme ils le souhaitaient depuis 2 ans. Donc, on se dit, il y a peut-être un moment difficile là, qui s'en vient avec les vacances. D'autant plus qu'on sait que l'influenza fait qu'il y a beaucoup de monde dans les hôpitaux. Il y a la COVID qui dit encore que c'est quand même plus compliqué les hôpitaux. Il y a des craintes dans le réseau de la santé présentement pour les semaines et les mois à venir.
Je comprends. Donc, merci beaucoup, Patrick Bellerose, pour ces deux résumés de textes importants que tu avais dans le journal ce matin.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Et bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Montcalm, général américain au Boréal. Il est avec nous, comme vous le savez maintenant, tous les mardis, parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par le 50e anniversaire du parc Cartier-Brébeuf. Dave, tu as écrit un grand article là-dessus dans Le Devoir. C'est toute une histoire. Hein?
Oui.
La réplique de la grande hermine qui arrive dans le parc puis qui fait naufrage.
Oui, c'est ça. C'est vraiment une histoire rocambolesque. C'est ça. Cette année, on célèbre cet été, en fait, le 50e anniversaire du parc Cartier-Brébeuf qui a été inauguré en 1972 par le lancement de la réplique de la grande hermine. Donc, la Grande Hermine, c'était le navire amiral de Jacques Cartier, le découvreur du Canada, entre guillemets.
C'est ça.
C'est ça. En 1535, Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent pour la première fois avec trois navires. Un peu comme Christophe Colomb qui avait ses trois navires, la Santa Maria, la Nina, la Pinta.
Ben, oui.
Jacques Cartier, lui, avait la Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émérillon.
Oui.
Anciennement, dans nos cours d'école ou primaire,
on apprenait ça.
Mais maintenant, je suis plus certain qu'on entre dans ces détails-là. Mais donc, en 1535, Jacques Cartier arrive à Québec. Il rencontre les Iroquois du Saint-Laurent, qui ne sont pas les Hurons. C'est vraiment un autre peuple qui a disparu par la suite en raison des maladies, des guerres.
Iroquois, Iroquoyens, faut pas se mêler.
Faut pas se mélanger. Non, les Iroquois du Saint-Laurent, c'est une autre population qui occupait la vallée du Saint-Laurent et qui, après le passage de Jacques Cartier, justement, en raison du choc microbien, des guerres, se sont dispersés. Il y en a certains qui ont intégré d'autres peuples. Puis là, on entre dans un débat historiographique excessivement sensible et controversé.
Okay.
On n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, mais donc, pour simplifier, c'est les Iroquois du Saint-Laurent qui reçoivent Jacques Cartier en 1535.
Mais dans les fameuses minutes du patrimoine des années 90, c'était un peu plus simple que ça.
Oui, tout à fait. On condensait en une minute des événements très complexes. On peut d'ailleurs entendre celle qui était consacrée à l'arrivée de Jacques Cartier à Québec en 1535.
Kashkaradagon idewe, Danonto, Kanadagon, Ente, Patagon.
Qu'est-ce qu'il dit, mon père?
Le commandant Cartier, il dit que sa nation s'appelle le Canada.
Canada?
Ah bon, Canada.
Mille pardons, sire. Je pense que ce mot veut désigner ce groupe de maisons là-bas.
Mais non, mon jeune ami, ayez confiance en moi, c'est sa nation, le Canada, c'est très clair.
Canada.
Je suis sûr que ça veut dire les maisons, le village.
C'est le fameux comédien Jean-Louis Miette qu'on entendait.
Oui, qui jouait le rôle d'un prêtre, alors qu'on sait qu'il n'y avait pas de prêtre avec Jacques Cartier en 1535. On entend aussi un simple marin qui réalise que le Canada n'est pas l'endroit où on se trouve, mais plutôt le nom pour village. Donc, c'est ça. Mais c'est amusant, ces minutes-là du patrimoine, parce qu'on a la vision de la religion qui est un peu obscurantiste, qui refuse la vérité. Donc, il y a vraiment des sous-textes dans cette... Dans une courte minute. C'est vraiment amusant. Mais quand même, ça rend bien le côté que les deux civilisations ne parlaient pas la même langue à ce moment-là. Donc, il y avait des problèmes de... Mais en même temps, les deux fils du chef Donnacona que Cartier avait fait enlever en 1534 étaient présents. Donc, eux avaient appris le français. En France pendant leur séjour là-bas et Cartier les avait ramenés. Donc, il y avait quand même des interprètes.
On peut penser qu'ils ont joué le rôle d'interprète à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Même s'ils étaient quand même hostiles à Cartier en raison de la façon que ça s'était produit. Et en plus, en allant en France, ils s'étaient rendus compte que ce qu'on leur donnait en Amérique comme offrande ou pour un échange de fourrure, ben, ça valait pas grand-chose par rapport au marché français. Donc, ça a contribué aux tensions, là. Cartier, pour son deuxième voyage, parce qu'on connaît bien le premier, quand il va à Gaspé, il plante sa fameuse croix, il prend possession du pays au nom de François Ier. Donc, le deuxième voyage, on le mandate pour qu'il aille plus loin un peu, qu'il aille voir jusqu'à Hochelaga. Donc, il remonte cette année-là jusqu'à ce qui est devenu Montréal. Et il revient à Québec pour hiverner. Donc, on lui a donné 15 mois de vivre sur ses navires. Il cherche un havre, un port où mettre ses bateaux. Et il remonte la rivière Saint-Charles, qui est aujourd'hui une petite rivière qui parcourt la ville de Québec. Il remonte les trois premiers kilomètres et il les installe dans la rivière Léret, qui est un ruisseau qui se jette dans la rivière Saint-Charles. Mm-hmm. Et il les fait remonter à marée haute parce que, disons que la profondeur de cette rivière-là n'est pas très, très, très forte. Et il passe l'hiver là-bas. C'est donc à ce moment-là qu'il construit un fort pour protéger ses navires. Et c'est à cette année-là aussi, que c'est pendant cet hiver-là, que le scorbut se propage parmi la centaine d'hommes d'équipage.
Oui.
Il va être sauvé. Les membres de l'équipage
vont être sauvés. Un remède amérindien.
Oui, l'aneda qui va être un remède qui va leur permettre de se remettre, mais il va quand même perdre 25 compagnons du scorbut. Et finalement, ce qui va l'obliger d'ailleurs à laisser un de ses navires sur place parce qu'il manque de matelots pour les manœuvrer les trois navires, donc il en laisse un sur place. On ne sait pas exactement si c'est la Petite Hermine ou l'Émérillon, mais c'est certainement un des deux. Et au printemps, il repart en France. Et c'est ça, ce parc-là, dans le fond, c'est sur ce site-là que ça s'est produit, tout ça. Et dans le fond, quand Champlain arrive à Québec pour fonder Québec en 1608, donc une soixantaine d'années plus tard, il remarque des vestiges près de la rivière Léret. Mmh. Il comprend que c'est les restes du passage de Jacques Cartier, dont il a lu le récit de voyage. Mais il ne trouve pas le bateau, par contre. Il ne trouve pas l'épave de la Petite Hermine, ou du moins, il n'en parle pas dans son récit. Il faut attendre aux années 1835, où là, pour le 300e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier, où il y a une société qui s'appelle le Cercle catholique de Québec,
oui,
qui installe une première croix près de ce qu'on appelait l'hôpital de la Marine, à l'entrée de la rivière Saint-Charles, là où on va trouver un pôle du futur tramway de Québec. Là. Donc,
ah oui!
tout, non loin de la Rock City. Là,
là où il y avait l'édifice de la Croix-Rouge, si je ne m'abuse, qui a été démoli depuis.
C'est à peu près là qu'on a planté une première croix. Et en 1887, on en installe une deuxième sur le bon site cette fois, qui est la croisée de la rivière Léret et Saint-Charles. Et en 1889, on installe un monument en granit. Et là, on a le premier ministre Honoré Mercier qui se présente et qui prononce son fameux discours Cessons nos luttes fratricides.
Cessons nos luttes fratricides. Oui. C'est ça qui est écrit sur le monument devant le Parlement, le fabuleux monument d'Honoré Mercier.
Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, on est vraiment sur les lieux. Et on dit même qu'il y avait 100 000 spectateurs.
100 000?
On est pas longtemps après l'affaire Louis Riel. Donc, c'est vraiment, il y a un engouement patriotique.
Ah oui.
Et Honoré Mercier, à ce moment-là, il espère dans son discours que le lieu va devenir un site de pèlerinage patriotique. Malheureusement, pour lui, ça ne va pas se produire. D'ailleurs, j'ai parlé à Gilles Galichan, l'historien de Nîmes-Boileau, qui lui se rappelle que dans les années 50-60, ce qui était l'embryon du parc Cartier-Brébeuf, où il y avait le monument en pierre de Mercier était, c'était un endroit un peu qui sentait mauvais. Il y avait quelques bancs de parc, des bosquets. C'était vraiment pas un endroit sympathique.
La rivière Saint-Charles a été traitée comme un dépotoir
c'est ça, depuis,
tout au long du 20e siècle.
Tout à fait. Donc, jusqu'aux années 50, on jetait même des carcasses d'animaux.
Oui.
C'était vraiment un cloaque assez malodorant.
J'ai déjà descendu la rivière Saint-Charles en canot. Puis, un jour, j'ai aperçu le toit d'une voiture dans le fond.
Ah oui?
L'eau était assez claire. Là.
Oui, oui.
Il y avait vraiment comme une...
c'est un endroit épouvantable. D'ailleurs, dans les années 70, on avait construit une espèce de muret tout le long des premiers kilomètres de la rivière pour faire un peu comme à Paris, les quais de la Seine.
Eh, mon Dieu!
Mais finalement, ce que ça faisait en sorte, c'est que ça a vraiment accentué l'effet égout de cette rivière-là qui avait plus d'oxygène. Et là, heureusement, on les a enlevés.
Oui.
Donc, c'est ça. Finalement, pour revenir au parc, c'est en 1957 que Diefenbaker, lors d'une visite, annonce que le fédéral va acquérir le premier petit parc qui avait été conçu dans les années 1880.
Ah, le fédéral.
Oui, c'est Diefenbaker qui se présente. Et donc, il achète l'endroit qui n'est pas un... c'est vraiment le site de la rivière Léret. Et en 1969, on a Jean Chrétien, qui est ministre des Affaires amérindiennes et du Nord canadien, qui lance les travaux, parce que là, on décide de réaménager les lieux pour accueillir la Grande Hermine. Donc, la Grande Hermine, la réplique du navire de Jacques Cartier qui avait été construite en 1966 sur le chantier de la Davie à Lévis.
Oui.
À ce moment-là, on construit une réplique au coût de 2,4 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui.
Oui, c'est en dollars d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, j'ai fait de la conversion. Ce navire-là, d'abord, il doit aller à l'Expo 67 pour symboliser, représenter les débuts du Canada. Et par la suite, il doit revenir à Québec et être le clou du spectacle du futur lieu historique Cartier-Brébeuf. Et c'est ça, donc on réaménage le terrain. Et en 72, c'est là que la réplique du navire est lancée sur le bassin. Et comme tu disais, le bateau bascule sur le côté, il sombre. Il avait été mal construit, ce bateau-là. Il n'a pas été... Parce qu'on n'avait pas les devis de construction d'origine.
Ah oui.
Et,
pourtant, il avait traversé tout le Saint-Laurent.
Avec un remorqueur.
C'est un remorqueur qu'il avait tiré.
C'est ça, ça prenait de l'aide pour que ce bateau-là puisse avancer. mais c'est ça, donc il a basculé. On a réussi à le renflouer et on l'a bien amarré pour être certain qu'il ne retombe pas.
C'est ça.
Et il est resté en place jusqu'en 2001. À une certaine époque, on l'avait
sorti. Il pourrissait sur place.
Il pourrissait carrément. Ah, puis, ouais. Il aurait demandé beaucoup d'entretien. Mais c'est sûr qu'en plus, il n'était pas très exact. C'était un bâtiment qui était un peu bizarre. C'était pas tout à fait le bateau de Cartier. Il s'en inspirait, mais c'est un curieux navire. Mais il avait quand même un certain profil. Il était quand même assez jeune. Une belle silhouette.
Je me souviens. On allait visiter ça,
Dans les visites scolaires,
c'est ça, genre, oui.
C'est ça. Moi, je me rappelle l'avoir vu, mais c'est un peu vague parce que ça, 2001, il était démoli. Et on a aussi détruit la maison longue iroquoienne qui se trouvait à côté, qu'on avait érigée dans les années 80.
Ah, ouais.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose dans le parc Cartier-Brébeuf.
C'est une espèce de carcasse, non?
C'est une œuvre d'art qui est censée représenter la petite hermine.
C'est ça.
De la petite hermine. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment un monument très minimaliste. Là.
Vraiment?
Oui. Puis en plus, on a enlevé...
On dirait les restes d'une baleine.
Ben, c'est ça. Il voulait symboliser les deux. Ça symbolise l'armature d'un navire et également les ossements d'une baleine. C'est ça, c'est vraiment expliqué sur le monument. Et en plus, la croix qui avait été installée en 1887, qui a été bénie par le pape Jean-Paul II en 1984, elle a été retirée en 2018. À Parc Canada, on m'a indiqué que c'était pour des raisons de sécurité. Le monument en acier risquait de s'effondrer, donc on l'a retiré. Ce qui fait que tout ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment le monument en granit qui avait été inauguré par Honoré Mercier. Sinon, c'est un parc vraiment pour pique-niquer et faire des barbecues. Depuis la pandémie, on voit ça maintenant.
Moi, je passe là en courant souvent.
Des nuages de fumée là, qui sortent des bosquets. Mais c'est vraiment un bel endroit. C'est un très beau parc, mais...
Puis maintenant, ça sent bon.
ça sent bon. Et par contre, les vestiges archéologiques... il n'y en a pas du tout. C'est ça qui est paradoxal. On a un lieu historique, mais il n'y a absolument rien à voir, même sous le sous-sol, parce que les briqueteries qui étaient en place à l'époque ont retiré tout la couche arabe sous la pelouse et pour faire des briques. Donc, il ne reste plus rien. Puis on a remblayé ça avec l'état d'un dépotoir. Donc, ce qu'on trouve, les archéologues qui ont fait des fouilles sur les sites historiques Cartier-Brébeuf, on trouvait des fois des vieux portefeuilles des années 60, des bouteilles de Pepsi. Le sol est vraiment bouleversé. Il n'y a vraiment plus rien à trouver, mais c'est quand même là où Jacques Cartier a hiverné pour la première fois.
Au moins, c'est ce dont on se souvient.
Oui.
Parlons du musée Mécord, maintenant, qui met en ligne des archives.
Oui, plus de 130 000 images pour le 100e anniversaire de leur histoire. Ça a été annoncé la semaine dernière. C'est un événement important, d'autant plus que les images sont libres de droit. Donc, on peut les télécharger en haute résolution, les utiliser pour des projets. Dans l'article de Radio-Canada qui rapportait la nouvelle, la présidente du musée, Suzanne Sauvage, évoquait le patrimoine collectif avec raison. Souvent, c'est très difficile d'accéder à ces images-là. Elles sont dans des collections privées, on charge 150 $ pour une image. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... C'est un peu décevant, c'est un peu frustrant souvent de laisser tomber ces photos-là qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas accessibles. Donc, c'est ça, le contenu de ce fonds d'archives-là. On a notamment les archives photographiques de William Notman, le fameux photographe.
Excuse-moi, situe-moi.
Oui, ben ça, on pense souvent à l'Hivernois. Notman, c'était un autre de son époque qui était très productif, très présent, beaucoup de photos de famille. Donc, c'est vraiment un personnage important. Et aussi les objets, parce qu'on a une collection exceptionnelle d'objets. Et on a les photos de ces objets-là. Par exemple, le fusil de Wilfred Nelson, le chef patriote qui a remporté la victoire de Saint-Denis en 1837. On a une photo d'un gobelet qui a appartenu à Montcalm, qu'il a laissé à des amis ici, avec ses armoiries gravées sur l'objet. On a une photo aussi du manoir de Philippe Aubert de Gaspé, le célèbre romancier, 5 ans avant son incendie en 1909, donc le manoir de Saint-Jean-Port-Joli, avec tous les détails. C'est vraiment des bonnes photos. En plus, à l'époque, il y avait un grain très fin. Puis aussi, c'est ça, c'est d'autant plus frappant que important, je veux dire, que le moteur de recherche est bien fait. J'ai utilisé et c'est aux antipodes de la plateforme de recherche du Musée de la civilisation à Québec. Quand on fait des recherches sur cette plateforme-là, on a soit 10 000 résultats ou aucun. Donc, c'est vraiment agaçant. Il n'y a pas les dates. Puis c'est pas numérisé en haute résolution, ce qui est encore plus agaçant parce qu'il faut toujours demander une autre photo. Disons que le musée McCord, c'est davantage, ça se situe davantage dans la lignée de Gallica en France, où on a vraiment directement les fichiers en haute résolution avec une bonne description, une bonne indexation. Disons que ça fait du bien.
C'est un modèle.
Un modèle puis, qui, malheureusement, au Québec et au Canada, n'est pas assez imité. Ce projet-là a été financé par une organisation philanthropique, la Fondation Azrieli, et par Patrimoine canadien. Donc, disons que c'est ça. Pour l'accès aux archives, là, c'est un grand pas.
C'est un pouce en l'air, disons, de Dave. Dis-moi, c'est le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque bientôt. Et en fait, il va y avoir une commémoration toute l'année.
Oui, c'est ça. René Lévesque, on célèbre régulièrement. On célèbre sa naissance, son élection en 76, sa mort. Donc, c'est un peu les Olympiades de la mémoire. Tous les 4 ans, il y a quelque chose. On revient sur René Lévesque. Cette année, donc, c'est ça, l'anniversaire de sa naissance.
C'est une forte volonté qu'il s'inscrive dans la mémoire.
Oui, oui. Il y a peut-être un danger en même temps de surexposition, qu'on revient tout le temps. Toi-même, tu as fait régulièrement des textes anniversaires. En plus, on célèbre tous les événements auxquels il a participé. On a eu le 40e du rapatriement récemment. Il est très présent. Donc, il y a quand même un danger de d'écœurement, entre guillemets, parce que malgré son importance, l'histoire ne se résume pas à René Lévesque.
Mais on est comme ça en histoire au Québec. Soit qu'on oublie, soit qu'on exagère. C'est comme la Révolution tranquille.
Ben d'ailleurs, ça nous ramène encore à 1960, l'an zéro de l'histoire du Québec, dans la mémoire, malheureusement.
C'est ironique, là.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'on est vraiment un peu l'équivalent pour les Français, c'est la Révolution française de 1789. Tout ce qu'il y a avant est un peu négligé. Ici, c'est vraiment... avant 1960, c'est le désert mémoriel.
Bien, on essaie de lutter contre ça ici, dans les actualités de l'histoire.
Avec, encore une fois, nos faibles moyens.
Oui.
Mais pour ce qui est de 2022, c'est quand même le centenaire de sa naissance. Et on peut entendre un extrait de Lucien Bouchard qui annonce l'année Lévesque. Lucien Bouchard qui est le président d'honneur des commémorations.
Ça y est, nous y sommes. La Fondation René Lévesque annonce aujourd'hui les grandes lignes de la célébration qui marquera le 100e anniversaire de naissance de M. René Lévesque. À compter de juin de cette année, de la fête nationale de cette année, jusqu'à celle de l'an prochain, ce sera l'année Lévesque sur tout le territoire. Je vous invite de vous joindre à moi pour célébrer et redécouvrir l'héritage de ce personnage hors du commun qu'a été René Lévesque. Bonne année Lévesque à toutes et à tous.
Une bonne année Lévesque à toi, Dave.
Toi aussi. Joyeux Lévesque.
Oui.
Donc, c'est ça les...
Mais il mérite. C'est vraiment... C'est vrai que c'est un personnage hors du commun. On dit ça trop souvent, là, une personne d'exception dans notre langage courant, mais on dirait que René Lévesque, il le mérite. Voilà.
C'est ça, le coup d'envoi, comme c'est le 13 juin avec le lancement du livre René Lévesque, Un homme et son siècle de Guy Lachapelle aux presses de l'Université Laval. Le 14 août, il va y avoir un grand entretien de Lucien Bouchard à la clôture des rendez-vous d'histoire à Québec. Et le 24 août, donc la journée même de l'anniversaire de son centième anniversaire de naissance, il va y avoir l'inauguration de « Sur les traces de René Lévesque » à l'espace René Lévesque à New Carlisle, son village de natal. Même s'il est né, on sait, au Nouveau-Brunswick, dans l'hôpital voisin. Et c'est ça, l'endroit, c'est vraiment un lieu de mémoire, New Carlisle, de René Lévesque. On a notamment la maison René Lévesque qui est sur place, qui a été nationalisée, entre guillemets, en septembre dernier par le gouvernement québécois. C'est une petite maison de bois blanche de 1904, donc c'est vraiment dans un petit quartier charmant.
Qui ne paie pas de mine.
Non, parce que le propriétaire a longtemps refusé de la céder,
ben
ça s'est retrouvé devant la cour. Il a fallu l'intervention de l'État en 2012 pour la protéger officiellement. Et c'est ça, maintenant, elle va être intégrée au lieu de commémoration de René Lévesque. Et le 17 novembre, il va y avoir l'exposition à Québec au Musée de la civilisation sur lui. Et comme le disait Lucien Bouchard, c'est en juin 2023 la clôture de l'année Lévesque. Et c'est ça. Puis on se souvient aussi, dans le dernier budget, il y avait un montant de 10 millions qui avait été versé par le gouvernement québécois à la Fondation René Lévesque pour cette année-là en cours. Et voilà, donc on va en entendre parler à nouveau jusqu'en juin 2023.
Ben, comme je l'ai dit, René Lévesque le mérite. Merci infiniment, Dave Noël.
Merci, Antoine.
On se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.